bleue. La Java la plus belle, celle qui en sorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux.
Bien des Français devinent qu'ils sont en train de vivre leurs dernières vacances de paix. Ces vacances, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, les a utilisées pour rendre visite au président Roosevelt, dont les sympathies personnelles ne peuvent hélas suffire à modifier la politique américaine de stricte neutralité.
Le Normandie vient d'accoster et M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, veut bien vous faire part à ce micro de ses impressions de voyage aux États-Unis. Monsieur le ministre, s'il vous plaît.
Monsieur le président Roosevelt m'a fait l'honneur de me recevoir à Washington et je conserve un souvenir ému de son accueil cordial qui a traduit une vive sympathie pour la France. Notre coopération intellectuelle, que je m'attacherai dans la mesure de mon rôle à développer encore, est le gage d'un intérêt commun. Et elle est, je pense, très supérieure à tous les intérêts personnels ou matériels, même légitimes. Elle sert la cause même de la civilisation.
À défaut des États-Unis, pouvons-nous au moins compter sur l'URSS? C'est à quoi s'emploie une mission militaire envoyée à Moscou le 4 août. Mais nous n'avons rien à donner aux Russes, et nos alliés polonais ne veulent à aucun prix que des troupes soviétiques pénètrent chez eux. Ils savent bien qu'elles n'en sortiraient jamais.
En revanche, l'Allemagne peut offrir à Staline une moitié de Pologne et les Pays-Baltes. Le dictateur rouge n'hésite pas. Dès l'annonce de l'accord soviéto-nazi, chacun a compris que l'heure de la guerre a sonné.
Le 23 août, le roi des Belges, Léopold III, exprime l'angoisse des neutres.
Le monde vit une période de tension telle que toute collaboration normale entre États risque de devenir impossible. De grandes puissances prennent des mesures presque équivalentes à la mobilisation de leurs forces armées. Les petites puissances n'ont-elles pas à craindre d'être victimes d'un conflit éventuel dans lequel elles seraient entraînées à leur corps défendant, en dépit de leur politique d'indiscutable indépendance et de leur ferme volonté de neutralité? Ne sont-elles pas exposées à faire l'objet d'arrangements intervenus en dehors d'elles?
Cet appel, lucide et prophétique, est aussi vain que celui du nouveau pape Pie XII.
Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana. Ora di tremende deliberazioni, delle quali non può disinteressarsi il nostro cuore. Non deve disinteressarsi la nostra autorità spirituale che da Dio ci viene per condurre gli anni sulle vie della giustizia e della pace.
À l'heure où parle le pape ce 25 août, la guerre n'est plus qu'une question d'heure. Hitler a donné déjà ses ordres d'attaque pour l'aube du 26.
À 19h, le président Daladier prépare les Français à l'irrémédiable et souligne combien l'extraordinaire retournement soviétique favorise les intentions belliqueuses de Hitler.
Pour organiser le front de la paix contre toutes les tentatives d'agression, nous avons pris des engagements avec d'autres pays, avec tous les pays qui ont voulu conclure le même engagement que nous dans le même esprit de solidarité humaine. Dans ce but notamment, que nous avions engagé avec la Russie, d'accord avec l'Angleterre, des conversations politiques et militaires. Nous avons tout mis en œuvre pour leur succès. Et nous pensions qu'elles allaient aboutir heureusement lorsque, renversant brusquement sa politique et sa doctrine, la Russie a signé avec l'Allemagne un pacte qui lui permet de se dérober aux obligations que lui imposait la politique qu'elle a cependant toujours publiquement affirmées.
Pourtant, au dernier moment, Hitler sursoit à l'invasion car Mussolini vient de lui faire savoir que l'Italie ne pouvait entrer en guerre.
Ce n'est pourtant qu'un bref sursis. Les tentatives de dernière heure, celles de Göring et du Suédois Dalérus, celles de Chiano, Georges Bonnet et Anatole de Monzy, tout cela est vain devant la résolution des partisans de l'affrontement et la décision irrévocable de guerre prise par Hitler.
Meine Frieden bliebe, und meine endlose Langmut soll man nicht mit Schwäche oder gar mit Feigheit verwechseln.
Il est 10 heures le 1er septembre et l'on se bat déjà depuis plus de 4 heures en Pologne lorsque le Führer s'adresse au Reichstag.
Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und Satan.
Au moment où parle Hitler, il n'y a déjà plus d'aviation polonaise. Le ciel appartient à la Luftwaffe qui couvre la percée des formations blindées suivies par des flots d'infanterie.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wenn unser Wille so stark ist, dass keine Not ihn mehr zu zwingen vermag, dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieg ein!
Les Polonais découvrent soudain que les charges de Lancier n'ont plus cours et ils se tournent avec angoisse vers ceux qui leur ont promis assistance immédiate.
54 heures après l'agression allemande, Chamberlain annonce l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
Le 3 septembre, à 17h, à son tour, la France déclare la guerre. Quant aux États-Unis, par la voix de Roosevelt, ils se contentent de déplorer le conflit.
Until 4:30 o'clock this morning, I had hoped against hope that some miracle would prevent a devastating war in Europe and bring to an end the invasion of Poland by Germany.
Tandis que l'armée polonaise est tronçonnée, encerclée, anéantie, c'est dans un calme résigné et méthodique que l'armée française achève sa mobilisation. Madame Colette en est tout émerveillée.
Septembre 1939 montre qu'en France, tout peut se concilier. À côté de la mobilisation, à laquelle nous avons assisté avec respect et que j'appelle une mobilisation huilée tant elle fut aisée, bien conduite, silencieuse. À côté de cet admirable mouvement militaire, nous voyons chaque jour, nous qui sommes maintenant les aînés, le spectacle étonnant de la vie quotidienne. Qu'avons-nous vu en 1914 ? À la stupeur succéda un grand lyrisme, un départ sous des fleurs et des cris, une incessante marseillaise qui ne s'éteignait ici que pour s'embraser là et qui forçait les larmes au bord de nos paupières. La magnifique et trompeuse conviction que la victoire était à 3 semaines de nous. Dieu me garde de blâmer l'enthousiasme et les fleurs de 1914. Mais ce qu'à l'époque, la France fut forcée d'inventer chaque jour, d'appliquer à la hâte, d'improviser souvent, nous le voyons aujourd'hui concerté, organisé et prévu mûrement, et jusqu'aux combinaisons ingénieuses et modestes qui dans nos immeubles...
Le règne de la défense passive, ô combien passive, commence.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son rage, sa plumeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Et maintenant, bonsoir, messieurs, dames. À jeudi prochain. Mais nous passerons alors à 20h30, toujours sur l'antenne...
Pendant que Gamelin compte ses boutons de guêtre, la déroute polonaise se consomme. Varsovie lutte encore pour l'honneur.
Tu mój Warszawa, serce narodu, tu mój Warszawa.
Mais bientôt, Radio Varsovie se taira.
Sie, mein Führer, haben das Unrecht von Versailles gegenüber Danzig wieder gut gemacht. Sie haben von der Danziger Bevölkerung den polnischen Druck weggenommen, der seit 20 Jahren...
Lorsque Hitler est accueilli le 19 septembre à Danzig par le Gauleiter Foster, le Führer peut déjà parler de la Pologne au passé.
Wir wollen in diesem Augenblick den polnischen Soldaten vollkommene Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Der Pole hat an vielen Plätzen tapfer gefochten. Seine untere Führung machte verzweifelte Anstrengungen. Seine mittlere Führung war zu wenig intelligent. Seine oberste Führung schlecht unter jede Kritik. Seine Organisation war polnisch.
Maintenant, c'est à l'Angleterre qu'il s'en prend en termes virulents.
Auch in dem Augenblick war noch einmal der Friede zu retten. Das befreundete Italien, der Duce, hat sich dazwischen geschaltet und einen Vermittlungsvorschlag gemacht. Frankreich war damit einverstanden. Und ich habe auch mein Einverständnis erklärt. Da hat England auch diesen Vorschlag abgelehnt und stattdessen geglaubt, dem Deutschen Reich ein zweistündiges Ultimatum mit einer unmöglichen Forderung schicken zu können. Nun haben die Engländer sich nur in einem getäuscht. Sie hatten einst eine Regierung in Deutschland im November 1918, die von ihnen ausgehalten worden war. Und sie verwechseln das heutige Regime mit diesem von Ihnen ausgehaltenen Regime und die heutige deutsche Nation mit dem damalig verführten und verblendeten deutschen Volk. Dem heutigen Deutschland stellt man keine Ultimaten mehr, das kann man sich nur nicht.
Parachevant l'effondrement de l'État polonais, les troupes soviétiques ont fait leur jonction avec celles de leurs alliés allemands. On organise même un défilé commun à Brest-Litovsk.
Les communistes français approuvent Staline, ce qui conduit le gouvernement Daladier à dissoudre le Parti communiste.
Et la noble Pologne ne se borne pas à donner l'exemple de son martyr. Elle y ajoute la leçon de son héroïsme. Après les premières défaites inévitables, puisque la Pologne n'avait pas encore achevé sa mobilisation, après la retraite devant des forces supérieures en nombre et en matériel de guerre, les soldats polonais se sont accrochés au sol de leur patrie. Ils parvenaient à se rétablir sur un front moins étendu. Mais au moment où fantassins et cavaliers luttaient à Coutelot contre les divisions motorisées allemandes, où, devant l'offre, ils arrêtaient les avant-gardes ennemies, où Varsovie encerclait, brisait tous les assauts, l'armée rouge, à son tour, est entrée en Pologne en vertu d'un pacte secret. En réalité, dès le 23 août, l'accord était conclu entre l'Allemagne et l'Union des Soviets pour le démembrement de la Pologne. Monsieur Hitler avait prétendu qu'il ne voulait que Dantzig, un plébiscite dans le corridor, une ou deux autostrades. Il prodiguait encore ses assurances alors qu'il avait dans ses mains le précieux contrat où l'Allemagne et la Russie se partageaient une proie encore vivante.
Le président du Conseil multiplie les appels radiodiffusés. La TSF, comme l'on dit alors, est devenue l'instrument d'une nouvelle forme de guerre, la guerre des ondes. En France, la propagande a été confiée à un merveilleux écrivain, malheureusement bien peu doué pour cette tâche, Jean Giraudoux.
La première phase de la guerre s'achève. Elle s'achève pour l'Allemagne, comme s'est achevée la phase autrichienne, la phase tchèque, la phase slovaque, nation, cette fois-ci la Pologne. Mais avec cette différence, que l'Allemagne a devant elle non plus une paix dont elle est la maîtresse, mais une guerre dont la commande semble lui échapper. Vous en avez eu vous-même le sentiment en entendant l'autre soir le discours de Hitler. Sa voix ne porte plus. Alors que la moindre parole du président Daladier ou de M. Chamberlain trouve une résonance et une signification, la parole de Hitler semble maintenant à ses concitoyens décevante, à ses ennemis vide de sens. En ce qui concerne la guerre militaire, l'occupation de la Pologne se poursuit. Quand le dernier soldat polonais aura usé sa dernière cartouche, elle s'achèvera. Ce succès a coûté. Plus de 150 000 Allemands sont morts ou blessés. 400 à 600 avions ont été abattus ou démolis. 600 à 700 pilotes tués. Le matériel a subi des pertes et une usure qu'il faudra des mois pour réparer. La guerre, pour la première fois depuis Napoléon Ier, est aux portes de l'Allemagne.
Avec le mépris de la mort, le cœur à l'aise, chacun conscient de son devoir, feignait de ne pas s'émouvoir à la française. Putain, a dit à ses soldats, soyez sergents, ils passeront pas, ils font qu'on tienne. Ceux de 39 foutent les joyeux, ils ne la gagneront pas, mon Dieu, quoi qu'il advienne. Non! Ils ne la gagneront pas, demandez à nos petits gars, le succès leur paraît notoire. Tous, dans un élan fougueux, sont décriés morbleux, nous lutterons jusqu'à la victoire. C'est pour dire, c'est pour rien, quoi faire abattus comme des chiens.
Le 28 septembre, la Pologne a capitulé. Le 6 octobre, Hitler assiste au défilé de ses troupes dans Varsovie.
Erste Strapazen hinter sich haben.
Ja.
Pour lui, la question est réglée, en plein accord avec Staline. Pourquoi donc poursuivre la guerre, demande-t-il le 6 octobre aux Français. Vous savez bien que j'ai renoncé pour toujours à l'Alsace-Lorraine.
Weshalb sollen diese Kriege stattfinden? Für die Wiederherstellung Polens. Das Polen des Versailler Vertrages wird niemals wieder erstehen. Dafür garantieren zwei der größten Staaten der Erde. Die Rückgabe des Saargebiets war die einzige Forderung, die ich als die unabdingbare Voraussetzung einer deutsch-französischen Verständigung ansah. Nachdem Frankreich selbst dieses Problem loyal gelöst hat, fiel jede weitere deutsche Forderung an Frankreich fort. Es existiert keine solche Forderung mehr und es wird auch nie eine solche Forderung erhoben werden. Was heißt, ich habe es abgelehnt, das Problem Elsass-Lothringen überhaupt auch nur zur Sprache zu bringen. Nicht, weil ich dazu gezwungen gewesen wäre, sondern weil diese Angelegenheit überhaupt kein Problem ist.
Les peintres en bâtiments sont des bons gars, généralement. Ils chantent en barbouillant leurs murailles en jaune ou en blanc. Parmi tous ces braves gens, il y en a un cependant qui a bien tout du fou. C'est un grand méchant loup. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il a, comme dirait ma sœur, la folie des grandeurs. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il se confie, se prend pour Attila. Bien sûr qu'il en crèvera. Tra-la-la-la-la-la, sous les roses.
La chanson de Georgius exprime sans détour diplomatique une réponse, somme toute, assez proche de celle que fait Édouard Daladier.
Le 26 septembre, il disait « Les Allemands des Sudètes sont le dernier des problèmes qui devra être résolu. J'ai assuré M. Chamberlain qu'une fois ce problème réglé, il n'y aura plus de problèmes territoriaux. » Et le 29 septembre, à la conférence de Munich, il nous affirmait, et m'affirmait à moi-même à plusieurs reprises, qu'il ne songeait nullement à annexer les Tchèques, qu'il n'en voulait d'ailleurs à aucun prix, parce qu'il tenait à maintenir intacte la pureté de la race allemande. Il réclamait le pays des Sudètes, où la majorité de la population était de race et de langue germanique. Quoi a-t-on pensé? Mais le 13 mars 1939, Prague était occupée, la Bohême envahie, la Tchécoslovaquie tout entière réduite à la servitude. Le 12 septembre 1938, Monsieur Hitler disait encore, l'Allemagne a décidé et elle a promis de considérer les frontières de la Pologne comme irrévocables. C'est pourquoi, lorsque Monsieur Hitler nous dit aujourd'hui qu'après avoir détruit la Pologne, il ne demande plus rien, lorsqu'il affirme qu'il ne veut rien de la France et qu'il respectera ses frontières, tous les Français savent qu'il ne manquerait pas, s'il le pouvait, de détruire la France, comme il a détruit l'Autriche, comme il a détruit la Tchécoslovaquie, comme il s'acharne à détruire la Pologne. Mein Kampf nous avertit. N'est-il pas écrit qu'il faut isoler la France là-bas?
Pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc.
Malheureusement, elle est bien là, cette fameuse ligne Siegfried, et ce n'est qu'en chanson qu'il est question de lui donner l'assaut. En fait, maintenant que sur terre, les canons se sont tus, faute de Polonais, c'est essentiellement sur mer que se déroule la guerre.
Les Allemands répondent au blocus allié par une offensive des sous-marins et des corsaires. Après le torpillage du paquebot Athénia le 4 septembre et du porte-avions Courageous le 18, le capitaine Prynne, sur l'U-47, coule le Royal Oak et rentre victorieusement à sa base de Wilhelmshaven.
Die Begrüßung der U-Boot-Mannschaft.
Wir haben jetzt dem Deutschen Reich und der deutschen Kriegsmarine einen solchen Erfolg gebracht, wie er schwer für ein kleines U-Boot gegenüber solchen großen Schiffen gar nicht denkbar ist.
La France, elle, continue ses foudroyantes offensives verbales. Elle mobilise ses penseurs, ses écrivains. Aujourd'hui, 18 octobre, c'est le tour d'Antoine de Saint-Exupéry.
Il s'agit pour nous non seulement de combattre contre le nazisme ou pour la Pologne ou pour les Tchèques ou pour la civilisation. Il s'agit de combattre d'abord pour continuer d'exister. Ceux-là qui ont quitté leur ferme, leur magasin ou leur usine se battent pour ne point servir d'engrais à la prospérité du peuple allemand. Ils sont partis pour conquérir le droit de vivre et de vivre en paix.
Mesdames, Messieurs, Monsieur Antoine de Saint-Exupéry.
La Grande-Bretagne ne ménage pas non plus la salive. Voici le ministre de la guerre, Orbelicha.
Tonight marks the close of the seventh week of the war. Hitler had fixed in advance the day of his assault, and Poland, endeavoring to resist the devastation of her homes, was harried. Her army was destroyed, but the memory of its valor is indestructible. The aggressor calculated that such swift and ruthless action in the East would intimidate the friends of Poland in the West, but it was not in the character of either France or Britain to desert an ally.
En désaccord sur la conduite de la guerre, Orbelicha démissionnera en janvier 1940, ce qui sera l'objet d'un commentaire du fameux traître de Stuttgart, un certain Ferdenet, que pourfend notre national Fernandel.
Faut pas, Francine, te laisser embobiner par les bobards. Ne crois pas qu'Hitler soit mal avec Staline et que les Boches aient bombardé Madagascar. Faut pas Francis.
Et le poste à Hondecourt se dévia. Veuillez entendre la cinquième émission de la journée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs, la démission du ministre juif de la guerre anglaise, M. Orbelicha, continue d'accaparer tout l'intérêt de la presse anglaise, qui tâche naturellement de présenter cette démission comme quelque chose de tout naturel, comme une relève de la garde, qui n'aurait rien à faire sinon avec la gestion du ministre de la guerre. Si c'est là le ton de la majeure partie des éditoriaux anglais, il n'est cependant pas difficile pour le lecteur attentif de retrouver partout des considérations de moins en moins flatteuses pour le fameux Orbelicha. Ainsi, le Daily Herald croit pouvoir raconter à ses lecteurs que des divergences avaient surgi entre Orbelicha et quelques membres du Conseil de l'armée, en particulier concernant les méthodes de guerre poursuivies actuellement. De plus, signale le même journal, il aurait été notoire que M. Orbelicha avait essayé de s'attribuer le rôle d'un chef policier, et la dernière lettre de M. Chamberlain adressée à M. Orbelicha aurait bien démontré qu'il ne s'agit pas d'une démission, mais
d'en croire un traître mot. Faut pas, Francine, écouter les racontards du salopard de Stuttgart. Faut pas, Francine, te laisser embobiner par ces bobards. Quand je pense qu'il veut faire croire, quand il jaspine, c'est un bon français de Barbès Rochechouart.
21 ans après Rotonde, c'est un bien mélancolique 11 novembre que célèbre avec distinction le président Albert Lebrun.
Mes chers compatriotes, une fois de plus, je suis allé à l'Arc de Triomphe assister à la cérémonie qui, depuis 21 ans, nous réunit fidèles et recueillis pour l'anniversaire de l'armistice. En ce 11 novembre 1939, tout est changé, car nous voici de nouveau dans la guerre. Tout a été tenté pourtant en vue de prévenir la catastrophe. La France n'a rien à se reprocher. Elle a consenti à la paix des sacrifices qui l'ont cruellement déchirée dans ses affections internationales.